Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Charles Pilet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un éclairage consacré à l'animal médecin. C'est le titre de votre livre que vous avez publié fin 2005 aux éditions Actes Sud. Alors je reprécise puisque nous avons déjà fait un éclairage sur la grippe aviaire, donc pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, je précise que vous êtes professeur émérite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, que vous êtes également membre de l'Académie des sciences dans la section biologie humaine et sciences médicales, et puis vous avez également présidé l'Académie nationale de médecine. Alors, dans ce livre, L'animal médecin, vous retracez la naissance de la médecine, en quelque sorte, la médecine, on y viendra un peu plus tard, la médecine expérimentale, qui va de pair avec l'étude du corps animal, donc les études vétérinaires, en quelque sorte. Alors, au tout départ, Charles Pilet, la médecine n'était pas reconnue comme étant une science en tant que telle.
Oui, il est clair que si on se souvient des diatribes d'un Molière, que purgare et exénare, la purge et la saignée étaient à l'époque les deux seules médications qui soignaient tout. On soignait toutes les maladies avec ces deux types de médications. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que la médecine était impuissante. Et elle était impuissante pourquoi? Parce que les sciences biologiques étaient à l'époque tout à fait rudimentaires. Finalement, si on se rend compte, si on étudie ce qu'est la médecine, on se rend compte très vite que la médecine, c'est l'extrapolation au plan de la clinique, au plan du diagnostic, au plan de la thérapeutique, de toute une série de sciences de base, non seulement l'anatomie et la physiologie qui constituent les sciences de base de la médecine, mais toutes les sciences, la toxicologie, la bactériologie, l'immunologie, la biochimie, etc., etc., jusqu'à l'informatique et la robotique, et bien sûr les sciences physiques, qui contribuent aux connaissances médicales. Pendant très longtemps, la médecine a été balbutiante parce que ces sciences de base n'existaient pratiquement pas ou étaient elles-mêmes balbutiantes. N'oublions pas que pendant des siècles, les autopsies humaines et les dissections humaines étaient interdites. Et que pendant cette époque-là, l'anatomie de l'homme était enseignée aux étudiants en médecine à partir de l'anatomie des animaux. Et au 7e siècle, c'est Ruini qui produisait son premier ouvrage sur l'anatomie du cheval, qui a servi cet ouvrage à l'enseignement de l'anatomie chez l'homme. Au 17e siècle, le premier ouvrage sur l'anatomie du chien, qui a également servi l'anatomie, l'enseignement de l'anatomie de l'homme. Et finalement, ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle que l'on a connu chez l'animal, je dis bien chez l'animal, les fonctions de nos différents organes.
Alors ça veut dire que jusqu'à présent, on constatait?
On constatait, mais on ne savait pas. Il a fallu la médecine expérimentale de Claude Bernard, deuxième moitié du 19e siècle, pour comprendre quelles étaient les fonctions du foie, quelles étaient les fonctions des autres organes. Et vous évoquiez ma profession de vétérinaire, il est clair qu'un homme comme Chauveau, qui était professeur à l'école vétérinaire de Lyon, avec Marais, avec leurs expérimentations sur le cœur du cheval, à l'intérieur du cœur du cheval, par l'introduction d'une sonde dans le cœur du cheval, nous ont appris toutes les bases de l'auscultation cardiaque. Et la signification des bruits du cœur viennent précisément de cette expérimentation de Chauveau et Marais. Donc, vous le voyez, l'enseignement de la médecine doit beaucoup, les progrès de la médecine initiaux doivent beaucoup à la médecine, la connaissance de l'animal. Au demeurant, il n'est pas innocent de penser que pendant les mêmes époques, c'est-à-dire les mêmes années, la médecine expérimentale d'une part, deuxième moitié du 19e siècle, c'est l'époque de Pasteur. Pasteur, ce chimiste qui nous vient de province, qui n'est ni médecin ni biologiste, va nous dire, attention, les maladies infectieuses, ça ne vient pas comme on le pensait de la génération spontanée, des miasmes, mais c'est dû à des microbes. et ils montrent que ce sont bien les microbes qui sont en cause, ils montrent comment on peut vaincre ces microbes, ils montrent comment on peut vacciner contre ces microbes. C'est du reste dans les mêmes années que Darwin trace les premières bases de l'évolution des espèces et que le moine Mendel établit les bases également de la génétique.
Donc, tout arrive au même moment.
Tout arrive au même moment et c'est l'explosion.
On a une impulsion.
C'est l'explosion des débuts des sciences biologiques avec l'évolution de la médecine. Alors ensuite, nous avons les grandes étapes de la médecine avec les premiers anti-infectieux, les sulfamides, 1935, les antibiotiques, 1940, la virologie, à partir du moment où Dulbecco nous montre que l'on peut cultiver les virus sur des cellules, des tapis cellulaires, c'est 1952, avec ensuite, dans la décennie suivante, l'immunologie, et ensuite la biologie moléculaire, comparativement du reste dans les mêmes époques, et maintenant la génétique moléculaire. Donc, dans toutes ces étapes, l'animal a été présent. Et c'est grâce à l'animal que ces progrès ont été réalisés. Donc ça, il ne faut tout de même pas l'oublier.
Alors voilà, finalement, l'animal est toujours une béquille pour la médecine.
C'est plus qu'une béquille, c'est une initiation. Sans l'animal, il n'y aurait pas les progrès médicaux que nous avons obtenus dans le passé et il n'y a pas les progrès médicaux que nous avons actuellement dans le présent. Et je pense aussi qu'à l'avenir, ça va être la même chose.
Alors, voilà, vous venez de nous retracer un petit peu la chronologie, là, en très peu de temps. On va revenir un petit peu en arrière. Donc, la deuxième partie du 19e siècle, c'est l'invention, entre guillemets, de l'animal de laboratoire, puisque des rats, des souris, même des lapins sont élevés, à ce moment-là, au Jardin des Plantes.
Oui, alors avec une attention pour l'animal de laboratoire qui n'est plus du tout... qui n'est pas du tout celle que nous avons actuellement. À l'époque, il est clair que Claude Bernard avait un respect tout à fait modéré pour l'animal. Ce qui intéressait pour lui, c'était de découvrir les fonctions de nos organes, et tant pis pour l'animal. Je dirais que les choses ont totalement évolué et se sont totalement modifiées au fil du temps. Dû, je crois, à deux événements. Tout d'abord, l'impulsion et la pression de certaines sociétés de protection animale auxquelles il faut rendre hommage. Certaines sont peut-être un petit peu
trop
curieuses. D'autres sont beaucoup plus constructives. Et d'autre part, à l'Europe. L'Europe a joué un rôle tout à fait considérable dans ce domaine, la communauté européenne et l'Union européenne. Et actuellement, nous avons dans chacun de nos pays, notamment en France, des directives émanant de l'Europe qui ont sensibilisé les chercheurs et qui ont fait que les chercheurs ont pris conscience de la protection, de la nécessaire protection de l'animal, du bien-être, du maintien du bien-être animal et qui font que l'évolution des choses a été tout à fait nette. Je pense que lorsque j'entends encore des sociétés de protection animale parler de vivisection, ce n'est plus de la mode.
Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est la vivisection.
Alors la vivisection, c'est le fait de disséquer un animal de son vivant sans anesthésie. Ben, à ma connaissance, j'ai connu cette époque. Ça ne se fait plus. Donc des précautions maintenant sont prises. Des précautions sont prises parce qu'il y a eu une modification de l'état d'esprit des chercheurs et parce qu'il y a une législation, une réglementation qui est très stricte et qui fait que les laboratoires de recherche maintenant doivent être agréés, les chercheurs doivent être agréés pour l'expérimentation animale. Il existe formation des chercheurs et des techniciens pour l'expérimentation animale. Donc tout ça s'est largement modifié. En même temps du reste qu'apparaissaient les méthodes dites alternatives ou substitutives. Et je crois que l'évolution des cultures cellulaires a été tout à fait importante dans ce domaine.
Je vous laisse terminer.
C'est-à-dire qu'on expérimente, avant d'expérimenter sur l'animal entier, on expérimente sur des cultures cellulaires qui sont bien sûr, qui proviennent de l'animal. Alors il y a deux types de cultures cellulaires, c'est ce que j'appelle les cultures cellulaires primaires, c'est-à-dire qu'on prélève des cellules d'un animal, on les met en culture et elles meurent ces cellules, donc il faut les expérimenter très rapidement. Ou au contraire des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cultures cellulaires cancéreuses, celles-là, qui ont une vie tout à fait pérenne et sur lesquelles on fabrique des vaccins, par exemple, sans aucun problème actuellement.
Alors, tout ça est allé très vite, hein. On va peut-être reprendre les choses une par une. En tout cas, on sait que vous êtes très modéré sur la question. On sait que vous êtes soucieux de cette législation européenne qui fait qu'on n'utilise pas les animaux à tort et à travers. Alors, vous écriviez dans votre livre, vous avez écrit en tout cas, qu'on peut ainsi mettre sur chaque fonction de nos différents organes un nom, une date et surtout l'espèce animale à l'origine de sa découverte. Hein, on revient un petit peu en arrière. C'est vrai que ce soit le cœur, que ce soit d'autres organes, on le doit à un animal particulier.
Oui, par exemple, je parlais du cœur tout à l'heure. Bon, encore une fois, les expérimentateurs initiaux ont été chevaux et marais, comme je vous l'indiquais, et ça s'est passé sur le cheval. Pourquoi cheval ? Parce que le cœur du cheval est assez volumineux pour qu'à l'époque on puisse expérimenter sur ce cheval vivant, du reste, en lui introduisant une paroi jugulaire, une sonde, un paroi intracardiaque. Même chose pour tout ce qui concerne la phagocytose, c'est-à-dire ces cellules et qui vont aller s'emparer du microbe lorsqu'il pénètre dans notre organisme. C'est Metchnikoff qui a beaucoup étudié la question à l'Institut Pasteur de Paris, et il l'a fait sur l'étoile de mer. Pourquoi ? Parce que c'était transparent, il pouvait voir ce qui se passait. Bon, par ailleurs, problème de cerveau, un problème de rêve en particulier, qui a été expérimenté très largement
chez
par notre confrère Jouvet. Là, elles l'ont été chez le chat, parce que le chat est connu pour son tempérament tout à fait rêveur. Bon, le diabète, c'est chez le rat, essentiellement. Donc, ça s'est passé. Bon, il est clair qu'actuellement, le sida et l'hépatite nécessitent des expérimentations, bien sûr, sur des petits animaux, mais lorsque l'on veut tester des vaccins, on est obligé de chercher des primates.
Des singes.
Et des singes, oui. Et ça pose problème. Ça pose problème éthique, bien entendu. Et ça pose des problèmes également d'approvisionnement. Quand on sait que certaines compagnies aériennes refusent actuellement d'importer ou de transporter des singes. Vous savez qu'un de nos ministres, il y a quelques années, a tenté d'implanter à Strasbourg un élevage de singes et qu'il a dû céder devant la pression de certains protecteurs des animaux.
Mm-hmm. Mais c'est un élevage pour
l'expérimentation animale. Pour l'expérimentation animale, pour les vaccins sida et pour les vaccins hépatite C, par exemple. Donc, nous avons des problèmes d'approvisionnement. Bon, il est clair que la chirurgie cardiaque, qui est très évolutive, comme vous le savez, ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas le chien, d'une part, et s'il n'y avait pas le porc, d'autre part. Donc, surtout le chien. Donc, tous ces essais de chirurgie cardiaque ne se feront pas directement chez l'homme, vous vous en doutez bien. Donc, ça se passe d'abord chez l'animal. Bon, et puis maintenant, nous en sommes à ces OGM, ces organismes génétiquement modifiés, qui font que le nombre d'animaux de laboratoire classique est en diminution tout à fait importante. Par exemple, en France, en 10 ans, le nombre d'animaux de laboratoire a diminué de 30%.
Donc, parce qu'on a d'autres méthodes.
Parce qu'on a d'autres. Il y a des méthodes alternatives dont je vous ai parlé. On pourra y revenir du reste parce qu'il n'y a pas que les cellules, il n'y a pas que les cultures cellulaires. Mais aussi parce que, actuellement, l'animal de laboratoire classique s'efface de plus en plus au profit des animaux génétiquement modifiés.
Alors voilà, c'est-à-dire qu'on parle des OGM pour les plantes, hein, pour les cultures, et il y a là une levée de bouclier. En revanche, pour les organismes génétiquement modifiés, mais concernant les animaux, là, non seulement c'est un peu moins connu, mais ça semble un peu plus, admis.
C'est admis pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas connu. En fait, pour la raison principale, c'est que c'est pas connu.
C'est que c'est pas connu.
Bon, c'est pas connu. Et la deuxième raison, c'est que ça touche à la santé de l'homme. Ça touche à la santé de l'homme, mais quand je vois certaines émissions de télévision, je m'interroge pour savoir si dans les familles des manifestants, il n'y a pas quelques diabétiques.
Manifestants anti-OGM,
voilà,
vous voulez dire.
Végétaux. Il n'y a pas quelques diabétiques, quelques épileptiques, quelques sportifs même qui utilisent
de l'EPO.
Tout ça est fabriqué actuellement par les OGM, et ce sont des médicaments de l'avenir. Mais en fait, les OGM animaux peuvent avoir, à mon avis, quatre grandes indications dans les progrès de la médecine. C'est d'abord les modèles des maladies animales. Les modèles des maladies humaines. Pendant longtemps, un certain nombre de maladies humaines n'avaient pas de traitement. C'est encore le cas pour beaucoup d'entre elles actuellement. Il n'y avait pas de traitement, pourquoi ? Parce qu'on ne connaissait pas ce qu'on appelle la pathogénie de ces maladies, c'est-à-dire l'évolution de ces maladies. Et on ne connaissait pas l'évolution de ces maladies, pourquoi ? Parce que nous n'avions pas de modèles animaux. On ne pouvait pas tuer un malade atteint de mucoviscidose, par exemple, pour savoir ce qui se passait dans son organisme. Bon, maintenant, grâce aux OGM, nous avons de modèles animaux pour beaucoup de ces maladies dites orphelines. Bon.
Vous pouvez inoculer cette maladie à l'animal ?
Je vous dirai dans un instant comment. Deuxième exemple, les nouveaux médicaments. Nous avons des nouveaux médicaments qui nous viennent très actifs, qui nous viennent de ces OGM. Troisième exemple, les xénogreffes. Un espoir, simplement un espoir pour le moment, mais un espoir pour les greffes. Vous savez qu'actuellement, meurent en France plusieurs centaines de personnes
qui sont en attente,
de greffe et qui ne trouvent pas de greffon. Bon, donc l'idée de ne plus avoir recours uniquement au greffon d'origine humaine, mais peut-être un jour au greffon d'origine animale. Et quatrième exemple, la thérapie génique, dont on parle beaucoup, qui évolue beaucoup moins rapidement qu'on l'aurait souhaité, mais tout de même. Donc voilà quatre exemples qu'on peut développer si vous le souhaitez.
Bien sûr, voilà, tout à fait.
Et qui permettent de voir quelles sont les portées de ces OGM animaux.
Alors le premier que vous avez évoqué.
Le premier que j'ai évoqué, ce sont les modèles des maladies humaines. Par exemple, pour la mycoviscidose, des modèles animaux. Maladie d'Alzheimer, nous avons des modèles animaux.
Maladie de Parkinson. Ce sont des maladies neurologiques ?
Essentiellement, oui. Trisomie 21, très récemment, modèle animal également. Les encéphalopathies, type maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Encéphalopathie spongiforme.
Spongiforme, voilà.
Très difficile.
Maladie de Huntington, maladie dégénérative également, extrêmement grave. Bon, toutes ces maladies-là connaissent maintenant, grâce au OGM, des modèles animaux.
Alors, comment on fait, en fait ?
On prend un gène d'un animal ou de l'homme, que l'on transfère. Vous savez qu'on a la génomique a fait des progrès considérables. Bon, donc on a isolé des gènes d'une part, on a étudié leurs fonctions d'autre part. Et lorsqu'on a connu ces fonctions de ces gènes, on sait que tel ou tel gène va être en actif dans l'apparition de telle ou telle maladie. Donc on prend ce gène, on va l'inoculer à un animal, on va donc déterminer la maladie en question. Déterminant la maladie en question, on peut suivre son évolution et voir comment elle évolue, et voir aussi quelle est son origine, puisqu'on a le gène. Donc voilà, on a un modèle animal qu'on n'avait pas auparavant. Donc voilà le principe, si vous voulez.
Bon, actuellement, les OGM ont permis une avancée considérable sur ces maladies.
Considérable.
Alors, Comment ça se traduit, par exemple ?
Mais le fait qu'on connaît la maladie va pouvoir permettre des espoirs thérapeutiques certains. On était acculé à constater la maladie sans aucun traitement. Maintenant, on va connaître la maladie, connaître son évolution, connaître son origine. Donc, il y a un espoir de thérapeutique qu'on n'avait pas antérieurement. C'est tout à fait clair.
Puisque sur les maladies dégénératives, on peut retarder l'évolution, mais on ne peut pas la stopper.
Non, mais à partir de maintenant, on connaît l'origine, et on va connaître l'évolution, on va avoir un espoir de thérapeutique. Je ne dis pas que c'est demain, mais enfin, c'est tout de même un progrès.
En tout cas, c'est quand même un progrès considérable.
Un progrès considérable. Deuxième exemple, les nouveaux médicaments. Alors, ces nouveaux médicaments, ils sont de plusieurs types. Il y en a qui s'appellent des protéines recombinantes. Bon. D'autres, je les classe sous le nom de régulateurs intercellulaires, c'est-à-dire cette balai intercellulaire qui fait que notre organisme, et ce merveilleux mécanisme, qui fait qu'une cellule intervient sur l'autre et vice-versa. Les troisièmes, ce sont les laits thérapeutiques. Alors, si vous le voulez bien, deux mots sur les protéines recombinantes. Les protéines recombinantes, prenons l'hormone de croissance. Bon, il y a quelques années, lorsque dans une famille, un enfant avait des problèmes de croissance, on le traitait avec des extraits hypophysaires venant soit d'animal, soit de l'homme. Conséquence, on les connaît maintenant, drames familiaux, avec apparition de maladies de Creutzfeldt-Jakob. Bon, pourquoi ? Parce que on injectait des produits qui étaient contaminés par ces fameux prions. Maintenant, on fabrique l'hormone de croissance. On a fabriqué l'hormone de croissance d'abord sur OGM animaux et maintenant sur OGM bactériens. C'est-à-dire qu'on fait ça sur bactéries ou sur levures. D'accord. calcitonine, qui est utilisée dans l'ostéoporose, même chose. Les interférons, ce sont des substances antivirales et qui sont maintenant obtenues par OGM, organismes génétiquement modifiés, qui sont très utilisés pour lutter contre certains types de cancers, certains types de leucémie notamment, et puis certaines hépatites, notamment l'hépatite C. Vous évoquiez tout à l'heure l'EPO, érythropoïétine, ce fameux médicament dont se servent certains sportifs certains athlètes, cyclistes, frauduleusement obtenus par OGM. Vous avez certains vaccins. Le vaccin contre l'hépatite B est obtenu sur OGM. Et puis il y a toute une série de nouveaux médicaments qui vont révolutionner la médecine, à mon point de vue, qui sont les anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux, qui sont donc des anticorps particulièrement ciblés, dans une indication particulière, déterminée, et qui sont l'objet de nombreuses études actuellement. Ils ont fait parler d'eux, malheureusement, vous le savez, dernièrement, sur ces expérimentateurs volontaires anglais, qui, malgré une expérimentation animale préalable, ont eu les accidents que vous savez, oui, lorsqu'ils ont été traités par ce type de médicament. Mais tout ça a fait que ces protéines recombinantes constituent une richesse pour la médecine tout à fait considérable, déjà pour l'hormone de croissance, mais déjà pour le PO, les vaccins, etc.
Même pour le PO et pour
les anticorps monoclonaux dans le futur. La deuxième, ce sont les régulateurs intercellulaires. Oui. Alors ça, c'est également très important. Bon, vous savez qu'on n'utilise plus d'insuline pour réguler le métabolisme du sucre. Insuline qui était isolée chez le porc. Bon, oui. Il y a plusieurs types d'insuline actuellement, dont certains types qui sont obtenus sur OGM. Vous avez également des nouveaux traitements de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie très invalidante qui fait souffrir énormément ceux qui en sont porteurs. Et depuis quelques années, nous avons de nouveaux médicaments.
Donc c'est une calcification des os ?
Non, c'est une déformation des os.
Déformation des os.
C'est une forme de rhumatisme tout à fait importante et douloureuse. Et depuis quelques années, nous avons de nouveaux anti-inflammatoires. Et si vous voulez, l'origine du livre que vous évoquiez tout à l'heure est un petit peu déclenchée par une audition d'une communication que j'ai entendue à l'Académie de médecine, qui a été produite par un rhumatologue fort distingué, et qui nous disait, en vantant ce nouveau médicament, que c'était une conquête de la rhumatologie. Certes, c'est une conquête de la rhumatologie. Mais en l'écoutant, je me disais, mais c'est aussi et surtout une conquête de ces multiples disciplines scientifiques que j'évoquais tout à l'heure. Il avait fallu 10 ou 15 ans de recherche dans différentes disciplines scientifiques de base pour en arriver là. Et conquête de rhumatologie, certes, mais conquête des sciences de base, certainement aussi, et surtout conquête de l'animal. Car l'animal était présent à toutes ces manifestations. Il s'agit des anti-TNF-alpha, ces anti-inflammatoires modernes qui font révolution dans ce traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Donc finalement, comme vous le dites dans votre livre, nous avons des pharmacies sur pattes, pour parler de...
Alors j'utilise ce terme pour traiter des laits thérapeutiques. Mais avant des laits thérapeutiques, je voudrais également vous parler de ces facteurs de croissance hématopoïétiques, pardonnez-moi le nom, mais c'est simple. Ce sont
un peu
des
techniques, effectivement.
Attendez. Ce sont des éléments qui permettent d'augmenter dans notre organisme le nombre de cellules blanches du sang. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque l'on est traité pour un cancer, on est traité souvent par de la chimiothérapie. Bon, la chimiothérapie va déterminer dans l'organisme du cancéreux ce qu'on appelle une immunodépression. C'est-à-dire que ça abaisse considérablement les défenses non spécifiques de l'organisme. Donc ça le soumet à des fragilités immunitaires considérables. Bon, le cancer lui-même, pour tous ceux qui en ont souffert et qui en souffrent encore, bien entendu, vous avez là des possibilités d'immunodépression dues à la maladie elle-même. Cette immunodépression est accentuée par la chimiothérapie. Donc il faut absolument aider l'organisme à réagir. Et ce sont ces facteurs de croissance hématopoïétiques, c'est-à-dire qui favorisent l'hématoïèse. L'hématoïèse, c'est la fabrication des cellules du sang qui permettent de mieux se défendre contre des infections, obtenues également par OGM. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres exemples, mais j'en passe. Alors vous parliez des pharmacies sur pattes. Là, c'est un espoir. Un espoir que l'expérimentation permet d'envisager tout de même avec succès. Lorsque l'on injecte un gène à un animal, ce gène va coder pour une protéine qui va fabriquer, par exemple, pour un médicament déterminé. Bien. Et on va retrouver ce médicament dans le lait de cet animal. Alors, il s'agit d'une souris, le lait, il n'y en a pas beaucoup. Mais il s'agit d'une brebis, il y en a davantage.
Déjà un peu plus.
Bon, et d'une vache encore plus. Donc, on va fabriquer sur ces animaux génétiquement modifiés par l'injection de ce gène qui va coder pour cette protéine médicamenteuse des laits qui vont contenir le médicament à l'état pur. Donc, voilà un progrès.
À partir du gène.
À partir du gène, le gène va coder pour la protéine. La protéine, c'est une protéine médicamenteuse, par exemple. Donc, on va récupérer cette protéine dans le lait. Et c'est ainsi qu'on a fabriqué expérimentalement des alpha-antitrypsines qui peuvent être utilisés dans l'emphysème pulmonaire, la cirrhose hépatique. On a d'autres médicaments qui sont des anticoagulants. On a d'autres médicaments qui sont des fixateurs du fer et qui peuvent être fabriqués par ces OGM. Or, fabriquer un OGM de gros animaux, c'est difficile. Alors, pour essayer de faciliter les choses, on a voulu cloner ces animaux. Et ce clonage a donné lieu à Dolly, la fameuse brebis, et puis à Polly, qui est une autre fameuse brebis qui, elle, avait reçu un gène humain. Bon, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes.
Mais sur le clonage, effectivement, sur 115 clonages, il n'y a que 6 ou 11 qui peuvent vivre.
Ça pose des problèmes, non seulement techniques, mais également éthiques, c'est clair.
Également.
Mais il y a quand même là, on peut envisager des progrès colossaux de médecine dans ce domaine. Voilà ce que j'ai appelé les pharmacies sur pattes.
Alors, on marque une courte pause, Charles Pilet. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre éclairage consacré à votre livre, L'animal médecin. À tout de suite.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain ? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Suite de notre éclairage en compagnie de Charles Pilet, académicien des sciences, vétérinaire et également professeur émérite donc à l'école vétérinaire d'Alfort et également pendant 10 ans directeur de cette école vétérinaire. Charles Pilet, on va aborder un sujet qui dépend toujours de l'animal médecin, livre que vous avez rédigé. On va aborder le thème de la xénogreffe. Alors la xénogreffe, avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, très simplement ?
Oui, bien entendu, il s'agit d'une recherche pour le moment, il n'y a pas d'application clinique, mais c'est une recherche qui est dictée par des besoins réels. Il faut savoir, comme je l'indiquais, que plusieurs centaines de personnes en France meurent chaque année parce qu'ils ne trouvent pas de greffon humain susceptibles de remplacer soit leur rein, soit leur foie, soit leur cœur. D'où l'idée de rechercher, s'il est possible, de pallier cette absence de greffons humains par des greffons d'origine animale. Et ces xénos en grec signifiant étranger, ce sont des greffons donc qui viennent d'une espèce étrangère, en l'occurrence l'animal. Cette recherche se fait essentiellement sur le porc.
Pour des raisons qui
sont les suivantes, c'est que le porc est un animal qui physiologiquement n'est pas très très éloigné de l'homme et qui anatomiquement non plus n'est pas très éloigné de l'homme. La taille des organes est, suivant bien sûr la taille du porc, mais peut être adaptée à la taille des organes humains. Donc la recherche s'effectue sur cet animal avec bien sûr 3 grands problèmes. Premièrement, le problème du rejet. Vous savez que lorsque notre organisme reçoit un individu, un organe qui lui est étranger, une cellule qui lui est étranger, il va le rejeter.
C'est pour ça une personne qui a une transplantation et des médicaments à vie, justement, pour ne pas avoir le rejet du greffon.
D'accord. Et ce rejet est d'autant plus violent que, antigéniquement parlant, le greffon qu'on lui impose, lui est plus étranger. Donc s'il va rejeter un greffon d'origine humaine, il va rejeter encore plus un greffon d'origine animale. Donc c'est un premier problème. Le deuxième est un problème de transmission d'agents infectieux. Il faut veiller à ce que le greffon de l'animal ne transmette pas à l'homme une maladie animale qui en puisse ensuite se transmettre d'homme à homme, bien
Donc
entendu.
Il faut que les porcs soient dans une zone
particulièrement
sain.
Le troisième, c'est un problème d'éthique, bien entendu. Alors, deux mots sur chacun de ces aspects. Problème du rejet, les recherches portent essentiellement maintenant, grâce aux OGM animaux, sur l'humanisation, entre guillemets, du porc. C'est-à-dire qu'on essaye de transmettre au porc des gènes humains qui font que le greffon
sera
plus accepté par l'homme. Il y a d'autres méthodes, mais en voilà une, si vous voulez. Le deuxième élément, c'est la transmission d'agents infectieux étrangers. On s'est rendu compte que chez le porc, il y a quelques années, on avait trouvé des séquences virales appartenant à la famille des rétroviridés, c'est-à-dire la famille du virus du sida. Et on s'est bien sûr inquiété. Alors, il est clair que là aussi, il y a des recherches en cours, et ces recherches s'effectuent sur des porcs que l'on appelle gnotobiotiques, c'est-à-dire des porcs qui sont élevés dans des conditions stériles.
Alors, en France, il y a des élevages
en
de ce
France,
type
En France, il y a des élevages de ce type, notamment à Ploufragan, dans les côtes du Nord, AFSA. Et le troisième problème est un problème d'éthique. Alors, certaines personnes ont quelquefois des hésitations devant la possibilité de se voir greffer un greffon humain. Alors, à ce propos-là, lorsque, il y a quelques années, j'étais invité à la sortie de ma présidence de l'Académie de médecine à prononcer le discours inaugural d'un congrès international de médecine à Hammamet, en Tunisie, j'avais choisi comme sujet la recherche d'aujourd'hui et la santé de demain. Et j'avais été amené à évoquer les problèmes des xénogreffes. Et oubliant totalement que je me trouvais en
devant
Tunisie,
des pays musulmans,
j'ai prononcé le mot porc. Et vous savez que dans ces congrès internationaux, il y a non seulement les scientifiques qui sont présents à la séance inaugurale, mais on invite des tas de gens, les puissances bien organisatrices sûr. Invitent des tas de gens non scientifiques, puissances administratives, politiques, etc., etc., religieuses, etc. Et lorsque j'ai prononcé ce mot, j'ai senti un certain flottement dans l'assistance. Donc, à la sortie, la séance étant présidée par le ministre de la Santé, je lui ai dit mes regrets. Il m'a rassuré en me disant « Ne vous inquiétez pas, vous avez fait votre devoir de scientifique et vous avez très bien fait. » Mais ce problème
d'éthique... Ce sont les choses qui étaient
son problème d'éthique, oui, bien entendu. Quoi qu'il en soit... Il est clair que si vous êtes condamné à mort, et vous savez que vous êtes condamné à mort, si vous n'avez pas un greffon dans les jours qui viennent, et qu'on vous propose un greffon d'origine animale un jour peut-être, je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de le refuser.
Mais alors ces xénogreffes, c'est faute de mieux, parce que justement on n'arrive pas à avoir...
Oui, je crois qu'il faut encourager le public et faire prendre conscience au public de la nécessité de donner volontairement leurs organes en cas de décès accidentel. C'est tout à fait important. Ça ne change rien par la suite, mais c'est une nécessité absolue pour les gens qui restent et qui ont besoin de votre foi, de votre cœur, de votre poumon, de votre rein, etc. Je crois qu'il faut inciter le public à penser à cela. Alors des dispositions, vous le savez, sont prises actuellement, mais que conscience soit bien prise par le public de la nécessité de penser à donner ses organes.
Et alors, ces xénogreffes, donc finalement, est-ce qu'il y a des personnes qui actuellement ont des greffons d'origine animale ?
Non, il n'y a pas d'organes animaux, mais par exemple, vous avez des individus qui se promènent avec des valves cardiaques dans le cœur d'origine porcine. Mais ce ne sont pas des organes.
Ce ne sont pas des organes entiers, oui.
En revanche... Ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est des xénotransplantations cellulaires. C'est-à-dire que on peut utiliser des cellules. C'est le cas notamment avant une greffe de foie. En cas, par exemple, d'une hépatite fulminante, eh bien, vous avez des cellules hépatiques en dérivation qui permettent de pallier l'absence momentanée de greffon et d'attendre un greffon pendant un temps relativement court. Vous savez aussi que des essais maintenant sont faits sur l'injection dans le myocarde, dans le muscle cardiaque, de cellules musculaires qui vont réparer ce muscle cardiaque. Bon, on utilise aussi des îlots pancréatiques dans ce cas-là. Donc, tout ça est en train de se développer d'une manière tout à fait rassurante.
Alors, là, c'était toujours pour parler de l'animal. Actuellement, très récemment, des chercheurs canadiens ont utilisé la méthode, donc, vous allez me dire si je ne me trompe pas, la xénotransplantation cellulaire.
Oui, c'est ce que je viens de
voilà, vous... c'est-à-dire qu'en fait...
Ça entre dans cette optique-là.
Voilà, c'est-à-dire que pour le coup, on n'utilise plus les animaux.
Ah oui, mais alors là, vous parlez de xénotransplantation cellulaire d'origine humaine.
D'origine humaine.
Oui, oui. Alors ça, c'est le problème également des cellules souches, qui est également traité en partie dans ce livre, et qui est également en pleine évolution.
Est-ce qu'alors justement, c'est-à-dire
les cellules souches ont d'abord été travaillées à partir des cellules souches animales, et puis on a découvert également que l'utilisation que l'on pouvait faire, d'une manière tout à fait bénéfique, des cellules souches humaines, qu'elles soient embryonnaires ou qu'elles soient adultes. Et là, il y a une recherche tout à fait active dans ce domaine.
Puisque, justement, pour revenir sur ce sujet, une patiente qui avait un problème a pu voir sa vessie reconstituée à l'extérieur de son corps. Après, on a pu lui remettre, vu qu'on avait réussi à cultiver, ou en tout cas à reconstituer, une vessie. Ce qui peut paraître un peu extraordinaire, ouais, même pas un peu très extraordinaire.
On reconstruit aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai abordé tout à l'heure, des muscles cardiaques abîmés par l'injection de ces cellules souches également. On reconstruit de la peau également. Donc il y a toute une recherche très active dans ce domaine et très encourageante.
Alors il existe également la thérapie génique développée dernièrement.
Oui. Alors, on a créé beaucoup d'espoir autour de cette thérapie génique il y a quelques années. En fait, c'est un Français, vous le savez, qui a initié cliniquement le premier cette affaire, le professeur Alain Fischer, en injectant un gène sur des bébés qui étaient porteurs d'un déficit immunitaire important. Et ce gène a réparé en quelque sorte l'organisme. Donc là aussi, c'est un organisme génétiquement modifié, vous le voyez, à partir de l'apport de ce gène qui a permis à ces bébés ou à un certain nombre d'entre eux de survivre. Et vous savez qu'il y a eu aussi des accidents qui ont interrompu un certain temps cette expérimentation qui maintenant, je crois, est reprise. Mais là, il y a un espoir certain également grâce à ces organismes génétiquement modifiés, cette fois-ci d'homme à homme.
Pour travailler cette fois-ci sur les maladies génétiques.
Voilà.
Donc le Téléthon, les choses
qui travaillent... Il faut encourager toute cette recherche, c'est bien évident.
Alors, abordons un deuxième sujet, enfin qui n'est pas vraiment un deuxième sujet, mais en tout cas les méthodes alternatives, puisqu'on parle de l'animal, mais il y a des méthodes alternatives pour ne pas forcément, en tout cas, les utiliser dès les premières étapes d'élaboration de médicaments ou de recherche.
Oui, j'ai cité tout à l'heure les cultures cellulaires.
Voilà, tout à fait.
Mais en dehors des cultures cellulaires, il y a également le recours à des organismes inférieurs du type bactéries, du type levure.
Les levures.
Qui sont tout à fait utilisées.
Les
notamment
algues.
Les aussi, bien sûr, qui sont également utilisées dans le cadre de ces organismes génétiquement modifiés, mais également dans d'autres cas. Donc les organismes inférieurs sont largement utilisés. Les embryons. L'autre jour, nous avons parlé de la grippe. Il est clair que le vaccin antigrippal est fabriqué sur embryons, œufs embryonnés. Bon, l'informatique et la robotique, très important. La fabrication, la mise au point des médicaments est totalement différente de nos jours de ce qu'elle était il y a encore quelques années. On ne fabrique plus un médicament avec les méthodes anciennes. Le chimiste fabriquait une molécule, on étudiait les propriétés biologiques de cette molécule sur l'animal et on le développait par la suite. Non, le chimiste, grâce à la chimie combinatoire, fabrique des milliers de molécules en même temps, ou les molécules sœurs en quelque sorte, et grâce à la robotique, on passe ces molécules dans des robots sur des substrats enzymatiques qui permettent de connaître l'activité de ces molécules en très grand nombre. Vous avez des robots qui passent pour les plus petits de 2000 molécules par jour, pour les plus gros de 20 000 molécules par jour. Donc ce sont des progrès tout à fait considérables qui font appel à la robotique et à l'informatique. Vous avez également l'informatique en matière d'organes victuels qui essayent de reconstituer des organes victuels. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tous ces progrès, malgré l'avènement de tests in vitro, très importants en matière de tétanos, par exemple, pour le vaccin antitétanique, il se trouve que j'ai présidé pendant un certain nombre d'années le groupe des experts européens pour les normes de vaccins et sérums pour les animaux. Nous avons vu évoluer au fil du temps les techniques au bénéfice de la protection animale. On n'utilise plus les méthodes anciennes qui consistaient à injecter des toxines sur l'animal vacciné et voir ce qui se passait. On faisait souffrir l'animal. Actuellement, ce sont des tests in vitro. Vous avez également les tests de la lapine pour voir anciennement si les femmes étaient enceintes, sont totalement disparus au profit de kits qui sont tout à fait performants. Les tests pyrogéniques, c'est-à-dire pour savoir si un médicament contenait des substances endotoxiniques, des substances bactériennes qui pouvaient être nocifs pour l'individu qui allait recevoir ces sérums physiologiques, on les testait sur lapins qui étaient dans des petites cages isolées avec des thermomètres dans le rectum qui étaient reliés à un enregistreur de température. Ça n'existe plus au profit de tests in vitro. Il y a une évolution considérable de ces techniques. On a remplacé les tests in vivo par des tests in vitro de plus en plus nombreux.
Alors, est-ce qu'un jour on pourra se passer de l'animal ?
Bien, pour le moment, la réponse est non, pour une raison bien simple, c'est que ce que l'on peut faire sur la cellule, c'est déjà très important, culture cellulaire. Mais notre organisme, c'est une somme considérable de cellules, qui ont des fonctions différentes les unes des autres. C'est un ballet remarquable, c'est une chorégraphie extraordinaire, qu'on ne peut pas encore schématiser sur un ordinateur, c'est pas possible. Donc le fait qu'une cellule soit activée dans notre organisme, fait que cette cellule va intervenir sur une autre cellule, qui va également intervenir sur une troisième cellule, etc., etc. Et si vous lisez les notices des produits pharmaceutiques, il est facile de s'en rendre compte. Lorsque vous achetez un médicament, vous voyez sur la notice « effet indésirable ». Et cette liste est très longue.
Oui.
Et vous constatez qu'un médicament qui agit sur le foie, par exemple, risque de contrarier une fonction rénale, une fonction cardiaque, une fonction pulmonaire, etc. etc. Ça vous montre bien quelle est cette intrication extrême, cette intégration de chacune de nos fonctions qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas pu remplacer l'animal.
Donc toujours à la dernière étape,
c'est l'animal.
C'est l'animal. Alors, on va aborder cette fois-ci une deuxième partie qui correspond à la deuxième étape de votre livre et qui dépend également toujours de l'animal. Ce sont les crises alimentaires. Alors, vous intitulez votre chapitre « Le jour où la vache est devenue folle ».
Et j'ajoute, les scientifiques ont perdu la tête.
Les scientifiques ont perdu la tête.
Oui, parce que c'était entièrement nouveau. Et nous nous retrouvions un peu à l'époque où Pasteur se trouvait, lorsque, ayant expérimenté sur les bactéries, il a commencé à expérimenter sur la rage. Pour lui, c'était entièrement nouveau, ce n'était plus une bactérie, c'était quelque chose qui lui était inconnu, c'était un virus.
Un virus.
Eh bien, nous nous trouvons exactement au même stade. Nous connaissons les bactéries, nous connaissons les virus, nous connaissons les champignons, mais là est apparue une nouvelle chose qui est la transformation d'une protéine normale en protéine pathologique. Et c'est ce qu'on a appelé le fameux prion.
Le prion.
Bon, c'est entièrement nouveau.
Qui était connu bien avant la crise
on
de la vache folle.
C'est-à-dire qu'on connaissait ces deux vétérinaires qui avaient trouvé chez le mouton une maladie qui s'appelait la tremblante. Ils avaient montré que cette maladie était transmissible de mouton à mouton. Mais on ne connaissait pas l'origine de cette maladie. Alors, c'est assez curieux. Donc voilà un exemple de maladie animale. Et qui est tout à fait extraordinaire, et qui est transmissible à l'homme, mais sous forme de certaines formes de maladies de Creutzfeldt-Jakob. Mais c'est pas la seule. Si vous considérez toutes les grandes crises sanitaires de ces 20 dernières années, vous constatez que toutes sont d'origine animale. On sait maintenant que le sida a pour origine un virus du singe qui s'est transformé. La vache folle, que vous venez de citer. Il y a les listérioses qui ont fait des dégâts importants en 1900...
Les listérioses au départ sont d'origine animale.
Oui, l'hystéria, lorsque nous avons eu la hystéria est un germe ubiquiste qu'on trouve un peu partout dans la nature, n'est-ce pas ? Et se trouve en particulier chez l'animal. Et les contaminations qu'on a connues en 1992 notamment, avec plusieurs morts, il y a eu 63 morts tout de même, ces individus étaient contaminés par des langues de porc. Ensuite, en 1999, il y a eu les rillettes. Donc, tous ces problèmes venaient de l'animal. Ensuite, il y a eu le SRAS. Syndrome respiratoire aigu sévère, qui nous venait de Chine. L'animal en cause, ou l'un des animaux en cause, parce qu'on ne connaît pas sûrement les autres, c'est la civette palmiste, qui est un animal, un petit rongeur, qui est très apprécié des Chinois, d'une part comme animal de compagnie pour certains, et d'autre part dans la cuisine chinoise. Donc il y a sans doute d'autres animaux en cours. Et puis maintenant, vous avez la psychose grippale, que vous connaissez. Donc, si vous constatez ce qui s'est passé dans les deux dernières décennies, vous constatez que toutes les grandes crises sanitaires ont une origine animale.
Alors finalement, cet animal qui au départ a servi à connaître notre propre corps humain, à découvrir les maladies, à pouvoir combattre ces maladies, finalement, l'animal peut aussi, d'un autre côté, être vecteur de maladies.
Il est capable du meilleur, puisque nous avons vu les progrès qu'il a fait accomplir et qu'il fait accomplir quotidiennement la médecine. Il est capable du pire aussi, puisqu'il provoque ces psychoses du type vache folle il y a quelques années, du type grippe actuellement, et les possibilités de contamination de l'homme avec des maladies dont certaines sont tout à fait importantes. Je pense en particulier au virus Ebola, à ces fièvres hémorragiques de l'Afrique, qui sont extrêmement dramatiques compte tenu du nombre de la mortalité et de la morbidité.
Alors quel est l'animal qui au départ est vecteur de cette maladie du virus
Ebola? Alors on a cru pendant longtemps qu'il s'agissait des singes parce que chaque épidémie humaine était précédée d'une hécatombe de grands singes dans les pays africains. Et puis l'an dernier, à la fin de l'année dernière, des chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement ont constaté que le singe est bien un vecteur, mais que ce n'est pas lui le réservoir de la maladie, que c'est la chauve-souris.
La chauve-souris.
Qui est un animal vecteur. Et la chauve-souris, vous savez, c'est un animal curieux parce qu'elle peut également transmettre la rage, et elle peut également transmettre d'autres maladies. Je pense en particulier au virus de Nipah. Reportons-nous à 1995 en Malaisie. Il y a des morts chez les hommes d'encéphalomyélite. Encéphalomyélite, mortalité importante. On se rend compte que chez les individus qui meurent, ont tous été en contact avec des porcs. On se dit donc que
c'est le porc
qui a transmis la maladie à l'homme.
Maladie.
Et on recherche pourquoi le porc est infecté. On constate qu'il y a eu des déforestations dans le secteur, que les animaux qui étaient présents dans ces forêts et parmi eux les chauves-souris, se sont rapprochés des maisons et que ces chauves-souris, en urinant des arbres par terre, ont contaminé des fruits qui ont été consommés par les porcs. Les porcs se sont infectés par ce virus et ont donc contaminé à leur tour l'homme. Donc vous voyez que c'est assez curieux. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres choses curieuses comme ça. Par exemple, la douve du foie. Il y a deux types de douves. Il y a la grande douve et la petite douve. Mais dans la petite douve, il y a des cycles de contamination tout à fait curieux. Les ruminants, mouton par exemple, qui excrètent dans la nature des larves de cette petite douve. Bon. Et ces larves vont être consommées par des escargots. Ces escargots vont rejeter ces larves par leurs antennes et dans leurs baves. Il y a des espèces de petits globules blancs, là, des petits globules blanchâtres.
Des écrasses.
Oui, et qui sont ingérés par des fourmis. Et les fourmis vont rester à la tête du brin d'herbe. Ils vont provoquer, ces larves vont provoquer une augmentation de volume des ganglions sous-œsophagiens, donc sous la mâchoire de la fourmi. Contraction de la fourmi. Un animal va passer par là, va absorber ses herbes avec la fourmi, se recontaminer. Et puis, s'il y a un homme qui passe par là, il peut également sucer un petit brin d'herbe, se contaminer à son tour.
Donc, c'est une chaîne alimentaire à chaque fois que vous retracez.
Il y a des cycles tout à fait importants dans lesquels, vous le voyez, l'animal est tout à fait en cause. Et c'est à la fois passionnant, mais c'est également inquiétant dans certains cas.
Alors, vous parliez du virus Ebola, on en parle moins, mais est-ce qu'on avait trouvé quelque chose pour justement essayer de combattre cette maladie, ou est-ce qu'elle s'est éteinte, entre guillemets, d'elle-même ?
Les maladies infectieuses, ça naît et ça s'éteint, comme l'a si bien décrit Charles Nicolle. Alors, il est clair que, en ce qui concerne l'Ebola, les mesures d'hygiène sont tout à fait importantes. Et certaines coutumes africaines, qui consistent à toucher particulièrement les cadavres que l'on va enterrer, à leur faire une toilette sérieuse, etc., etc., permettent la contamination interhumaine. Donc, il faut là très bien informer les populations et des précautions à prendre en matière de prophylaxie sanitaire de l'Ebola, c'est clair. Alors, il y a des épisodes particulièrement dramatiques, et puis tout s'éteint et tout revient, le virus reste dans la nature, souvent hébergé, semble-t-il, par ces chauves-souris, qui peuvent contaminer le singe, et le singe contaminer l'homme, parce que le singe est porteur de ce virus, et que l'homme va côtoyer le singe, ne serait-ce que pour rechercher ce qu'on appelle la viande de brousse, et se contaminer à cette occasion-là.
Alors, est-ce que pour la vache folle, donc la maladie de Creutzfeldt-Jakob, est-ce que pour le SRAS, est-ce que pour toutes ces maladies, à chaque fois ce sera cyclique? Est-ce qu'on va retrouver la vache folle dans une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années? Est-ce que pour le SRAS, ce sera la même chose? Ou est-ce qu'elles vont réapparaître sous une autre forme?
Alors, pour la vache folle, on n'en sait rien, parce que c'est encore un peu mystérieux, cette maladie. Je me souviens que le professeur Jean Burger, lorsqu'il était président de l'Académie des sciences, m'avait demandé en 91, je crois, de faire un exposé devant l'Académie sur les connaissances de l'époque de la vache folle, du virus de la, enfin, du prion de la vache folle. Et j'avais indiqué en conclusion deux éléments qui me paraissaient évidents. Le premier, c'est que nous n'avions que très peu de connaissances dans ce domaine, et c'était vrai. Et le deuxième élément, c'est que à partir de cette époque-là, les recherches allaient se développer. Mais je me trompais tout à fait sur ce deuxième élément. Il a fallu attendre 96, la date où le ministre britannique de la Santé a déclaré devant le Parlement britannique que le syndrome de la vache folle, plutôt la maladie de la vache folle, pouvait se transmettre à l'homme, pour que nos grands organismes de recherche puissent consacrer, en dehors du CEA. Le CEA, avec Dominique Dormont, avait commencé bien plus tôt. Mais nos grands organismes de recherche n'ont commencé à mettre de l'argent sur ce problème que très tardivement. Ce qui a fait que nous ne connaissons que trop tardivement des méthodes de diagnostic de cette maladie, et si nous les avions connues plus tôt, nous aurions évité cette hécatombe d'animaux que nous avons connue pendant plusieurs années.
Alors, est-ce que ça pourrait revenir? Est-ce que ça pourrait être
bien
cyclique?
Bien sûr, tout peut revenir. Regardez la grippe. La grippe, ça a été cyclique. Il y a toujours eu de la grippe dans le monde, avec des épidémies qui sont quelquefois sans une importance tout à fait grande, mais dans d'autres cas, avec des pandémies. Vous avez les trois pandémies, 1918, 1957, 1968. Nous attendons une nouvelle pandémie. Je ne sais pas du tout quand elle arrivera. Je souhaite qu'elle arrive le plus tard possible, bien
avec
entendu.
Avec la grippe aviaire.
Avec la grippe aviaire, mais c'est avec un autre virus grippal, du reste. Il ne faut pas oublier, je le répète, que cette grippe aviaire n'est pas une maladie nouvelle, qu'elle a été identifiée en 1959, d'une manière certaine, en Écosse, et que depuis cette époque-là, il y a eu 22 épisodes de grippe aviaire au travers le monde, avant l'épisode de l'épizootie de 2003. Donc ce n'est pas une maladie nouvelle. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu ni transformation, ni recombinaison de virus, ni mutation de virus. C'est assez important pour déterminer une contamination de l'homme.
Et sur ce sujet de la grippe aviaire, nous renvoyons nos auditeurs au précédent éclairage que vous nous avez consacré justement sur la grippe aviaire, psychose ou pas, qu'est-ce qu'il faut en penser, une heure pratiquement dans laquelle vous nous expliquez tout en détail. Charles Pillet, merci beaucoup, merci de nous avoir consacré une heure sur votre livre, dont je rappelle le titre, L'animal médecin, publié fin 2005 aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci en tout cas.
Et puis, nous rappelons nos éditeurs que vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site de l'Académie des sciences au www.academie-sciences.fr. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.